Vortex et Rotative.
L'émission où l'on vous parle de nos livres de science-fiction préférés.
Sur Radio Dragon et Campus Grenoble.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes à l'écoute de Campus Grenoble 90.8 et Radio Dragon 104.4 et 96.8.
Aujourd'hui, on va vous parler du roman Babel 17 du grand maître de la SF multiprimé Samuel Delaney. Babel 17 a été publié en 1966 aux États-Unis sous le même titre. Il est sorti une première fois en France en 1973 aux éditions Calman Levy dans la traduction de Mimi Perrin. Il a ensuite été réédité en 2008 dans le recueil Chant de l'espace par Bragelonne, puis en 2023 par Mnemos dans une traduction revisitée par Olivier Béranval, préfacée et postfacée par ce dernier. Samuel Delaney naît en 1942 à New York. Son grand-père était né esclave, mais en deux générations, sa famille a réussi à s'établir dans la bourgeoisie noire de Harlem. Et parmi ses ancêtres, il compte plusieurs figures importantes pionnières des droits civiques ou de la Renaissance de Harlem, un mouvement de renouveau de la culture afro-américaine dans l'entre-deux-guerres.
Delaney, qui souffre pourtant de dyslexie, accède très tôt à une éducation pour enfants surdoués et des établissements scolaires à la fois élitistes et progressistes. Il abandonne plus tard ses études universitaires pour poursuivre autrement sa formation en création littéraire.
Depuis son adolescence, Delaney s'identifie comme gay. À l'âge de 18 ans, il épouse son amie Marilyn Hacker, une poétesse et traductrice blanche et juive. Leur mariage durera 19 ans et il semble avoir été un mélange de relations affectivo-amicales et de mariage par intérêt, permettant à Hacker de s'émanciper de sa famille et à tous les deux de mener une vie plus libre chacun, chacune de leur côté. Ils auront une fille ensemble. Après leur divorce en 1980, Hacker s'identifie comme lesbienne.
Delaney publie son premier roman en 1962 à l'âge de 20 ans. Il s'ensuit une longue carrière littéraire avec une première période où les histoires tournent souvent autour d'un voyage initiatique fantastique et dont fait partie le roman Babel 17 qui est l'objet de notre émission aujourd'hui. À partir des années 70, il explore plutôt les mécanismes culturels de l'érotisme et de l'amour. Certaines des représentations de pratiques SM notamment sont alors jugées choquantes et la vente de ses livres est plus ardue. Il revient ensuite plus à la SF et se consacre aussi à l'enseignement universitaire.
Les thèmes récurrents dans ses romans sont la mythologie, la race, la sexualité et le genre. Il y a souvent de l'homoérotisme plus ou moins explicite, des personnages féminins et ou racisés importants ou qui échappent à la binarité de genre. Et il est aussi le premier auteur à évoquer l'épidémie du sida en 1984. Delaney participe activement au débat politique dans les milieux de la SF. Notamment par ses analyses des œuvres d'autrices féministes, comme Joanna Russ, ou encore par des essais, comme avec Racism in Science Fiction. Il publie également un nombre important d'essais autobiographiques, dans lesquels il thématise, entre autres, ses expériences communautaires, et parle aussi librement de sa propre vie sexuelle.
Il a par ailleurs été critiqué pour son soutien à NAMBLA, une association homosexuelle militant pour une sexualité intergénérationnelle.
Alors que Samuel Delaney multiplie les prix et hommages littéraires, il ne semble pas avoir bénéficié d'une reconnaissance économique à la même hauteur et échappe à la précarité et aux effets économiques du racisme, seulement grâce au soutien de sa fille. Aujourd'hui, il vit à Philadelphie avec son compagnon Dennis Rickett.
Le roman Babel 17 suit le personnage de Rydra, une poétesse capable de comprendre et d'apprendre n'importe quelle langue à une vitesse hors du commun, mais aussi navigatrice et capitaine de vaisseaux intergalactiques. Dans le début du roman, la galaxie est divisée par une guerre sanglante qui oppose l'Alliance et les extérieurs. L'Alliance subit des attaques régulières et lors de chacune d'elles, des messages indéchiffrables sont enregistrés. L'Alliance imagine que ce sont des messages codés et embauche Rhydra pour les déchiffrer. Celle-ci va découvrir une langue pour le moment inconnue et particulièrement complexe. Elle comprend que chaque message décrit précisément l'attaque qui va avoir lieu et informe du lieu de l'attaque suivante. Elle va alors organiser un voyage en vaisseau spatial avec un équipage post-humain pour se rendre sur le lieu de la prochaine attaque. Elle est portée par la curiosité et l'envie de rencontrer les personnes utilisant cette langue qui a changé sa perception du monde, mais aussi par le devoir de comprendre les armes des extérieurs. Dans son livre Babel 17, Samuel Delany développe un univers assez complexe et trippant. Il s'étend sur plusieurs galaxies et est composé de plusieurs mondes qui sont habités par 9 espèces, tout aussi évoluées technologiquement que les humains et capables de voyager dans l'espace.
Une seule chose à savoir, ce ne sont pas des humains. Il existait 9 espèces différentes dans les 7 galaxies que les voyages interstellaires avaient permis d'explorer. 3 s'étaient officiellement rangés aux côtés des alliés, 4 aux côtés des extérieurs. Et les 2 autres n'avaient pas pris parti.
Une guerre divise l'univers et elle est au centre de la narration. Pourtant, l'histoire reste assez floue sur ce qu'est l'Alliance et quelles sont les origines ou les raisons du conflit. Il n'y a pas d'analyse de la guerre, et même si le colonialisme est évoqué à la fin, il n'est pas du tout critiqué. Et ça, c'est sûr que c'est un truc qui manque dans l'histoire. Les différentes espèces qui composent l'univers se croisent peu et se connaissent peu. Et par exemple, il n'y a pas de vaisseaux interespèces dans l'histoire, bien que les humains soient très divers. Beaucoup de gens font des modifications corporelles grâce à la cosméchirurgie et ne ressemblent pour certains quasiment plus à des humains.
Il n'y a aucune raison d'avoir peur de lui, fit remarquer Rhydra au contrôleur. Mais il est si... Tout en cherchant le mot exact, il se demandait comment elle avait bien pu deviner sa pensée. « Par tous les cercles de l'enfer, d'où vient-il ? » C'est un terrien, mais il est né à bord d'un vaisseau entre Arcturus et l'une des étoiles du Centaure. Sa mère occupait le poste de Limas, si Lomé n'a pas menti, car il raconte beaucoup l'histoire. Mais alors, s'il était rien, toutes ces modifications physiques sont l'œuvre de la cosméchirurgie ? En effet, fit Rhydra en descendant les marches. Mais pourquoi diable s'infliger tout ceci? Ils sont tous si bizarres. C'est pour cela que les gens normaux ne veulent pas avoir affaire à eux. Jadis, les marins se faisaient bien tatouer.
Ces modifications corporelles sont très courantes parmi celles qui voyagent dans l'espace et qui se retrouvent dans des sortes de bars ou de boîtes de nuit clandestines. Rhydra va en visiter une pour composer son équipage, accompagné d'un contrôleur de la guilde.
Ils descendirent se mêler à la foule animée des chargeurs. Des hommes et des femmes normaux pour la plupart. Cependant, la proportion de ceux ayant eu recours à la cosméchirurgie était suffisante pour attirer sans cesse le regard ébahi du contrôleur de la guilde. « Je n'ai jamais mis les pieds dans un établissement de ce genre », murmura-t-il. Des créatures amphibies et reptiliennes discutaient joyeusement avec des griffons et des sphinx dont la peau lançait des reflets métalliques.
Certaines descriptions des personnages ayant fait de la cosméchirurgie sont assez succinctes, et ça laisse une grande place à l'interprétation.
Brass s'étira, se laissa retomber sur ses 4 pattes, secoua sa crinière, tandis qu'un grondement sourd enflait dans sa poitrine. Et soudain, ses yeux dorés s'élargirent en reconnaissant Rhydra. « Kawiten Wong !» Sa gueule, que distendait l'écrou implanté par cosméchirurgie, ne parvenait pas à prononcer certaines lettres.
Mais dans l'équipage de Rhydra Wong, il n'y a pas que les personnages ayant eu recours à la cosméchirurgie qui peuvent surprendre. Delany a aussi inventé les numérisés. Ce sont des défunts qui ont des sens ultra développés et sont capables d'observer et de recueillir tout ce qu'il se passe au niveau des fréquences hyperstatiques et qui sont appelées l'œil, le nez et l'oreille.
Ils avançaient maintenant entre les pylônes lorsque des particules luminescentes fusionnèrent brusquement. Elles produisirent un embrasement argenté qui troua l'épais brouillard des gaz industriels. Soudain, trois silhouettes se découpèrent. Des squelettes de femmes qui venaient vers eux dans le scintillement de leur parure de sequin, leurs yeux creux, tel un gouffre d'ombre. Mais au travers de ces corps, l'on apercevait les traverses des pylônes. Et le guilde sentit les griffes glacées de la peur lui frôler la nuque. « Ces visages !» murmura-t-il. Dès qu'on détourne le regard, on ne se les rappelle plus du tout. Quand on les fixe, ils semblent humains pourtant, mais à peine les a-t-on perdus de vue. Il retient son souffle au passage d'un autre corps. Que tout souvenir s'efface aussitôt. Il se retourna pour les suivre des yeux avec incrédulité. Puis il secoua la tête. Des défunts ?
Même s'il est composé uniquement d'humains, l'équipage de Rydra est assez divers. Chacun chacune y occupe une place et un rôle bien déterminé qui existe dans la plupart des vaisseaux humains de cet univers. On y rencontre par exemple une triade, trois navigatrices extrêmement liées qui fonctionnent ensemble, ou une limace qui prend soin d'un escadron d'enfants. Dans Babel 17, il y a plusieurs passages avec des scènes de séduction hétéro dont on ne comprend pas bien l'intérêt, notamment dans le premier chapitre, ou des rapports de séduction très normatifs et parfois des codes patriarcaux vraiment dégueux. Alors des fois, on se demande si l'auteur se sert de ces situations dans le but de visibiliser et critiquer des choses ou si c'est lié à ses propres représentations. Et évidemment, on se pose certainement ces questions parce que l'auteur est gay. Et dans tous les cas, Samuel Delany développe aussi des relations qui dépassent le cadre hétérosexuel normatif. Ces fameuses triades sont parfois des relations amoureuses qui réunissent trois personnes. Ces relations sont décrites un peu précisément avec des enjeux relationnels complexes et un attachement amoureux très fort, même s'il est parfois incompris par d'autres personnes de la société.
On s'amusait même en se disputant pour savoir qui dormirait au milieu du lit. Ce fut comme un signal de reconnaissance. Ron reprit lentement sa position contractée, les genoux remontés, enserrés dans ses bras, le menton abaissé. Moi, j'ai encore les deux autres membres de ma triade et je ne devrais pas me plaindre, fit-il remarquer. Peut-être bien. Est-ce qu'ils t'aiment ? C'est ce qu'ils disent. Et toi, tu les aimes ? Bon Dieu, bien sûr que oui. Souvent, je discute avec Molia et elle essaye de m'expliquer quelque chose. Mais elle a encore des problèmes avec notre langue. Pourtant, tout d'un coup, je crois comprendre ce qu'elle veut dire et c'est... Il redressa son buste et leva les yeux, comme si le mot qu'il cherchait se trouvait quelque part en l'air, très haut. « C'est merveilleux !» acheva Rydra pour lui. « C'est ça, c'est merveilleux » répéta-t-il en la regardant. « Et toi et Kali ?»« Kali est un gros ours mal léché. On s'amuse à chahuter ensemble et à se bagarrer. C'est entre lui et Molia que ça ne colle pas. Il a du mal à la comprendre. » Mais comme c'est moi le plus jeune, il a l'impression qu'il devrait apprendre plus vite que moi. Et comme ce n'est pas le cas, il se tient un peu à l'écart de nous deux. Pourtant, quand il est de mauvais poil, moi je sais comment le prendre. Mais Molia n'a pas encore l'habitude et s'imagine qu'il lui en veut.
Samuel Delany décale les normes et les imaginaires patriarcaux. Et par exemple, dans un passage, ce sont des femmes enceintes qui conduisent des vaisseaux de guerre, car elles seraient plus réactives. Ce qui décale franchement l'imaginaire de la femme douce et sensible. Samuel Delany décrit aussi des relations assez chouettes, avec un respect de l'intimité, mais aussi avec des personnages assez humbles, capables par exemple de reconnaître leurs torts.
C'est un étrange personnage, dit Rydra. Pour quel motif l'a-t-on mis en prison ? Je ne le lui ai jamais demandé, et il ne m'en a jamais parlé, répondit Jebel en redressant le menton. Voyez-vous, Le Jebel Tariq abrite une véritable faune, et dans un espace aussi confiné, l'intimité de chaque individu prend une importance considérable. Au bout d'un mois, vous vous apercevrez que le Jebel Tariq n'est après tout qu'une bien petite montagne. J'ai eu tort, je n'aurais pas dû vous poser cette question.
Dans ce roman, l'auteur représente plusieurs fois des rapports de classe, parfois en montrant des rapports d'exotisation assez paternalistes, parfois avec des incapacités à se comprendre entre différentes positions sociales, ou encore des rapports de valorisation et de dévalorisation.
Vous êtes une guilde, capitaine. Bien sûr, vous avez affaire à des chargeurs, mais j'ai bien vu la façon dont ils vous dévorent du regard, se retournent sur votre passage et essayent de deviner qui vous êtes lorsqu'ils vous croisent. Vous êtes une reine, pour sûr, mais une reine chez les guildes. Vous êtes différente des chargeurs. Ron, je suis une figure publique, et c'est pour cette raison que tout le monde me dévore des yeux. J'écris des livres. Les guildes les lisent, c'est vrai, et si j'éveille leur curiosité, c'est juste parce qu'ils se demandent à quoi je ressemble. Ces livres, un guild ne pourrait pas les écrire. Et quand je parle au guild, ils me regardent et me disent « Vous êtes avec les chargeurs ». Elle haussa les épaules. Et en fait, je ne suis ni l'un ni l'autre.
Dans Babel 17, il y a plein de relations super intéressantes. Et beaucoup de choses qui se jouent dans ces relations sont liées à la langue, comme par exemple des difficultés à se comprendre et à communiquer. Mais la langue est aussi un soutien, notamment pour Rhydra, qui a d'immenses capacités de compréhension et de traduction.
Généralement, les vivants ne pouvaient s'entretenir avec les numérisés et se souvenir de la conversation qu'en utilisant un équipement spécial. Mais Rhydra avait résolu le problème en traduisant simultanément en langue basque tout ce que les numérisés lui disaient, avant que les faibles synapses ne soient déconnectées. Si les mots s'effaçaient aussitôt de l'esprit dans leur version originale, la traduction, elle, y demeurait gravée, et Rhydra venait à l'instant même de retenir en basque cette petite phrase « Les circuits arrachés de leurs plaques ne sont pas le fruit de ton imagination ». Vous êtes toujours à l'écoute de Vortex et Rotative sur Radio Campus Grenoble ou Radio Dragon.
Aujourd'hui, on vous parle du roman Babel 17 de Samuel Delany.
Dans le roman Babel 17, la langue est un élément central du récit. Mais ce n'est pas une simple image ou un symbole pour parler de communication ou de compréhension-incompréhension. Delany, qui plus tard enseignera aussi la linguistique, développe ces questions vraiment d'un point de vue scientifique. Classiquement, dans la SF, on s'attend à des explications scientifiques pour des technologies basées sur la physique ou d'autres sciences dures, avec des excursions dans la philosophie métaphysique pour pas mal d'œuvres des années 40 et 50. Dans les années 60, c'est le début de la New Wave, qui s'intéresse aussi aux sciences humaines, et Babel 17 s'inscrit bien dans ce courant.
Je vais essayer de simplifier au maximum. Elle dessina un symbole sur la plaquette. Supposons que le symbole pour « cercle » soit « O ». Cette langue comporte des conventions mélodiques pour illustrer les degrés de comparaison. Nous représenterons ces derniers par trois signes diacritiques, V, trait d'union et guillemets, signifiant respectivement le plus petit, quelconque et le plus grand. Que voudra alors dire OV ? Le plus petit cercle possible, répondit Kali, c'est-à-dire un point ? Rhydra acquiesça de la tête. Bien.
Ces explications linguistiques, parfois assez techniques, sont un peu exigeantes et peuvent être ardues pour certaines. Mais il ne faut vraiment pas s'en laisser décourager, on peut juste les survoler et quand même bien suivre l'histoire, parce que ces passages plus techniques sont souvent aussi restitués dans des moments de dialogue plus faciles à suivre. En ce qui concerne la langue Babel 17 elle-même, il est quand même un peu difficile de se la représenter et ça reste flou. Comme il s'agit d'une langue très dense et concentrée, le bureau du chiffre de l'armée la considère d'ailleurs d'abord comme un code, plutôt qu'une langue, partant de l'idée qu'une langue complexe ne pourrait pas prendre une forme aussi courte et réduite. Il faut alors l'expertise et la sensibilité d'une poétesse et ethnolinguiste telle que Ridra Wang.
Tout le délicat problème de distinction des phonèmes et de leurs variantes ou allophones est au centre du sujet. Or, vos gens du chiffre n'ont même pas compris qu'il s'agissait d'un langage. Comment voulez-vous qu'il leur soit venu à l'idée que... Quelle sorte de distinction ? Vous savez certainement que les Asiatiques confondent les sons R et L lorsqu'ils parlent une langue occidentale. Ce qui est tout à fait logique, car dans de nombreuses langues orientales, les phonèmes R et L sont des allophones, c'est-à-dire qu'ils sont considérés comme un seul phonème, dont la graphie et même la phonation sont identiques. Mais prenez par exemple en français le C de cure et de constitution. Quelle est la différence entre les deux ? Répétez chaque mot en écoutant bien. Le premier est un palatal, bien articulé sur le sommet du palais. Et le second, vélaire, plus subtil sur le voile du palais. Il s'agit simplement de variantes propres à chaque langue. Vous pouvez ainsi constater que vous avez l'habitude de les entendre comme un même phonème, alors que ce sont des allophones.
Oh, je vois.
Commencez-vous à entrevoir les difficultés que rencontre un étranger cherchant à transcrire un langage qui n'est pas sa langue natale ? Le résultat peut aussi bien se traduire par trop de distinctions entre les phonèmes que pas assez.
Mais ce qui est vraiment au cœur du récit, c'est l'idée que les langues formatent non seulement notre perception du monde, mais notre capacité même à le penser. Cette vision du langage remonte à l'hypothèse de Sapir-Whorf, formulée dans les années 1930, qui soutient que nos représentations mentales dépendent des catégories linguistiques dont nous disposons. Au début des années 60, cette thèse est au cœur d'une importante controverse entre anthropologues qui a certainement inspiré l'écriture du roman. Delaney nous embarque dans une véritable aventure linguistique avec l'avancement de Ridra Wang dans ses recherches sur Babel 17.
Pourquoi ma curiosité ? Parce que la plupart des ouvrages de référence définissent le langage comme un vecteur d'expression de la pensée. Mais en réalité, le langage même est pensée, et la pensée est une information enregistrée par l'esprit, à laquelle on donne une structure. Cette structure, Moki, c'est le langage, et dans le cas de Babel 17, elle est très déstabilisante. Qu'est-ce qui te déroute ? Moki, quand on apprend une langue étrangère, on découvre en même temps la manière unique dont les individus qui l'utilisent voient le monde, l'univers. Il approuva d'un signe de tête. Et au fur et à mesure que je pénètre la langue, mon esprit semble embrasser trop de choses.
Il y a plusieurs passages dans le récit où Ridra Wang, qui est traductrice par ailleurs, développe ses questions de la signification du langage à travers des comparaisons de différentes langues. Un de ces exemples sont les Syribiens.
Est-ce que ces êtres-là emploient le mot « je » ? Non seulement ils l'emploient, mais dans leur langue, il existe sous trois formes différentes. Le « je » à une température de moins 6 degrés, le « je » entre 6 degrés et 93 degrés, et le « je » au-dessus de 93 degrés. Le boucher semblait complètement dérouté. « C'est lié à leur processus de reproduction », lui expliqua-t-elle. « À moins 6 degrés, ils sont stériles. La température qui convient à leur fertilisation se situe entre 6 degrés et 93 degrés. Mais pour accoucher, il leur faut une température dépassant 93 degrés. »
Plus loin, elle raconte
« Prends l'exemple des Syribiens. Eh bien, ils ne connaissent pas les mots « maison »,« foyer » ou « habitation ». Et lorsque nous préparions le traité avec les Syribiens à la cour des mondes extérieurs, je me souviens qu'il nous avait fallu 3 quarts d'heure pour rédiger la phrase « Nous devons penser à protéger nos familles et nos foyers » en Syribien. Car toute leur culture est fondée sur la chaleur et les changements de température. Et encore, nous avons eu de la chance car ils connaissaient le mot « famille ». Ce sont d'ailleurs les seuls non-humains qui en possèdent une. Mais si l'on essaie de leur expliquer le concept « maison », on se retrouve en train de décrire une sorte d'espace clos qui crée une différence de température de tant de degrés avec l'extérieur, capable de donner un sentiment de bien-être à une créature dont la température intérieure reste constante à 37 degrés centigrades.
Et en parlant de traduction, il est vraiment très intéressant de lire la traduction retravaillée dans la plus récente édition française par Mnemos. Non seulement c'est vraiment une bonne actualisation, voire correction de la première traduction, ce qui permet une lecture plus fluide et rend plus justice à l'écriture de Delaney, mais en plus, le texte est aussi enrichi de pas mal de notes expliquant notamment certains choix de traduction. Par ailleurs, le style de Delaney peut aussi être très drôle. Il fait carrément des blagues. Parfois, elles sont probablement involontaires quand, dans ce monde super technologisé du space opéra, la protagoniste va passer un coup de fil dans une cabine téléphonique. À d'autres moments, les blagues sont complètement intentionnelles, comme par exemple le choix des noms de code dans la communication entre les chasseurs et le capitaine lors d'une bataille spatiale.
Équipe des névrosés, ordonna Gebel. Commencez la phase mégalomanie. Napoléon Bonaparte prendra la tête et Jésus-Christ sera à l'appui à l'arrière. Les chasseurs de l'aile droite s'avancèrent à leur tour en formation carrée. Activez la dépression grave avec symptômes de non-communication et d'agressivité refoulée. Derrière elle, Rydra entendit les voix animées des gamins de l'escadron auxquels la limace faisait grimper les marches. Mais dès qu'ils furent arrivés, ils se turent pour contempler l'immense projection de la nuit spatiale devant eux. Le déroulement des opérations leur fut chuchoté de bouche à oreille. Commençait la première crise psychotique. Les points jaunes s'enfoncèrent plus avant, dans l'obscurité.
Alors que j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, il faut bien dire aussi qu'il y a quelques passages extrêmement chiants, voire violents. Il y a notamment une scène de banquet où Delaney se sert de représentations super grossophobes pour mettre en scène la décadence des classes riches. Et ce n'est pas juste une phrase, c'est développé tout au long de la scène et c'est assez insupportable. D'autres passages me sont un peu obscurs, comme la scène d'ouverture du roman où un général de l'armée rencontre Rydra Wong. Il est tellement en adoration devant elle qu'il en perd ses esprits. Dans ce passage, Delaney décrit Rydra Wong d'une manière que je qualifierais d'exotisante et de sexualisante. Mais il n'est pas évident de comprendre si c'est là la vision de l'auteur ou si c'est une manière d'exposer le regard du général, qui ici représente clairement l'élite militaire conservatrice en contraste avec le personnage de Wong, créatrice et intellectuelle. Par ailleurs, dans les descriptions de certains personnages, on sent à plusieurs reprises un véritable culte du corps, toujours dans les normes de beauté et du validisme, probablement pas totalement étranger à certaines cultures PD encore aujourd'hui.
C'était le 33e épisode de Vortex et Rotative. On vous a parlé du roman Babel 17 de Samuel Delaney, publié aux États-Unis en 1966. La traduction française de Mimi Perrin a été éditée en 1973 par Kalman Levy et dernièrement rééditée par Mnemos avec une traduction revisitée par Olivier Béranval.
Le roman fait 300 pages dans l'édition de Mnemos, qui contient une préface et une postface d'Olivier Béranval, toutes les deux fort intéressantes, et on vous recommande de les lire si vous avez envie d'en apprendre un peu plus sur Samuel Delaney ou sur le thème du langage dans la SF. L'émission est montée avec des bouts de musique du groupe de Cold Wave français Babel 17, qui s'appelle comme ça en référence à ce roman.
Au revoir.
Au revoir et à la prochaine.
Vortex et Rotative. sur Radio Dragon et Campus Grenoble.